chez le roi. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous présenter son émission consacrée à Versailles. Voir Naples et chanter. C'est ainsi qu'avait intitulé son article Pauline Sommelet pour Point de vue. Au XVIIe et XVIIIe siècle, grâce au castrat, la ville fut le berceau d'une école de musique brillante et délicate. À l'occasion de son festival annuel, le château de Versailles fait revivre les plus belles heures de cette époque fastueuse. Le théâtre de San Carlo, à Naples, fut édifié en 1737 par l'architecte Medrano. Plus ancien opéra d'Europe, il demeure aujourd'hui encore une scène phare de l'art lyrique. Naples, c'est la ville de la musique, une ville qui chante et qui enchante, disait Mozart. Une ville où Caruso, le célèbre ténor qui a fait sa carrière à New York, est revenu pour mourir. Quant à Parthénope, la sirène qui fut, dit-on, à l'origine de la création de la cité, elle a donné lieu à de nombreux livres d'opéras. Le guide du théâtre lyrique San Carlo est plus qu'enthousiaste, carrément lyrique lui aussi. Il faut dire que le bâtiment rutilant qui se dresse derrière elle, petit joyau baroque, édifié en 280 jours seulement par Charles de Bourbon, roi de Naples, à partir de 1734, sous le nom de Charles VII, incite à l'émerveillement. Dans les fauteuils du parterre s'est glissée une spectatrice un peu particulière, Béatrice de Bourbon-Sicile, et la descendante directe à la 7e génération de cet aïeul qui reconquit le royaume de Naples occupé par les Autrichiens. Elle a hérité de cette illustre ascendance un amour profond pour une cité à la réputation sulfureuse. Les Français en ont une mauvaise image, se désole-t-elle, alors que c'est un endroit merveilleux, un théâtre à part entière, où la beauté se cache à chaque coin de rue. Le divin Mozart a écrit ses Nozze di Figaro en italien.
Per me tutto si cangiò.
beauté qui a toujours eu partie liée avec la violence. L'âge d'or de la musique napolitaine n'est-il pas dû aux quatre maisons de charité qui recueillaient les enfants pauvres de la ville pour les mutiler afin d'en faire des castrats? Ces fameux conservatoires qui formèrent les Farinelli et autres Caffarelli furent aussi le vivier d'instrumentistes tout aussi célèbres et de compositeurs comme Cimarosa, Porpora et bien sûr Scarlatti. Ce sont certains de leurs condisciples encore méconnus qui vont revivre à Versailles par la grâce du festival Les Voix Royales. On y recréera notamment sur la scène de l'Opéra Royal Catone in Utica de Leonardo Vinci, servi par une distribution de choix, le contre-ténor Max-Emmanuel Sandsic, fer de lance de la redécouverte de ce patrimoine inestimable, et le metteur en scène Jacob Peters Messer. Leonardo Vinci ou Leonardo Leo sont des compositeurs que l'on redécouvre aujourd'hui, comme on l'a fait pour Handel ou Vivaldi, confirme Patrick Barbier, musicologue spécialiste de cette période et auteur du livre Naples en fête. Leur musique est tout aussi géniale. Dans quelques décennies, ils seront des incontournables du répertoire baroque. Le voyage napolitain, sur les traces de ces chefs-d'œuvre envolés, n'en est que plus passionnant. C'est Andreas Scholl qui chante le merveilleux largo de Handel, Ombra mai fu. À San Carlo, donc, la musique est reine. Le public populaire s'y presse, tout autant que la bonne société. Au poulailler, on danse, on chante et on bavarde. Dans les loges de l'aristocratie, des miroirs permettent de guetter l'arrivée du roi. afin de se lever à temps. Aujourd'hui encore, le lieu est chéri par les aficionados de l'art lyrique. Angela Merkel y a même offert à son mari, pour son anniversaire, deux billets dans la loge dite San Severo, qui appartenait autrefois à la famille propriétaire de la chapelle du même nom. Un lieu phare du baroque napolitain où l'on peut admirer le sublime Christ voilé commandé au sculpteur Giuseppe San Martino par le prince Raimondo di Sangro, personnage emblématique de l'époque, amoureux des arts et des sciences, chrétien et franc-maçon. Dans son roman « Porporino ou les mystères de Naples », Dominique Fernandez en fait même le tuteur de son héros Castra. Jeune garçon, maintenant pubère, acheté autrefois à ses parents, châtré sur mon ordre, placé chez les pauvres de Jésus-Christ et destiné, si Dieu le veut, à perpétuer la glorieuse école de Porpora et de Farinelli. Orphelins devenus des idoles, les castrats sont les héros de scènes sacrées ou laïques, depuis la chapelle du Duomo San Gennaro, où sont conservés les ampoules du saint du même nom, patron vénéré de la ville dont le sang se liquéfie deux fois par an, sous peine de malheur à venir pour la cité, jusqu'au palais royal ou à Caserte, le Versailles napolitain. Philippe Jaroussky chante « Cara sposa » de Handel.
Thank you.
Charles III, qui trouvait la ville trop mondaine, décide en 1752 de faire construire par l'architecte Luigi Van Vitelli une résidence royale capable de rivaliser avec les réalisations de ses rivaux européens. Un palais dont Béatrice de Bourbon-Sicile est depuis longtemps l'ambassadrice, afin de promouvoir le patrimoine et le travail des artisans napolitains. Lors de la construction, tous les matériaux venaient de la région. Certains sols anciens, en terre cuite, peinte, sont remarquables. Elle conserve aussi de précieux souvenirs d'enfance dans le parc, dans lequel elle venait, enfant, avec ses grands-parents. Ils étaient très appréciés par les gens de ce pays, chez qui la mémoire de notre famille est encore très vive, explique-t-elle en souriant. L'immense palais, 47 000 mètres carrés dans un domaine de plusieurs milliers d'hectares, fait désormais partie de l'Association des résidences royales européennes, présidée par Catherine Pégard, qui dirige Versailles depuis 2011. La concurrence d'antan est devenue une saine émulation. La présidence s'amuse des ressemblances entre les chapelles royales. Quant au théâtre, Versailles croit toujours donner des leçons à tout le monde. Mais là, c'est bel et bien celui de Caserte qui a inspiré l'Opéra royal de Versailles, inauguré en 1770 à l'occasion du mariage du dauphin, le futur Louis XVI, dit Jean-Paul Gousset, conservateur en chef de l'Opéra versaillais. Lors de la représentation au théâtre de Caserte de Didon et Énée, les effets de mise en scène de l'époque étaient tellement réalistes que lors de la scène finale, l'incendie des murs de Carthage fit fuir le public qui croyait que les flammes avaient bel et bien embrasé l'édifice. À Versailles, le feu sacré des musiciens suffira bien.
E vieni alla finestra, oh mio tesoro, e vieni a consolare il pianto mio. Se ne
Les photos qui illustraient cet article « Voir Naples et chanter » étaient de David Atlan. Quel dommage que vous ne puissiez pas les voir. Il y a bien sûr la salle du théâtre de San Carlo. Il y a aussi la voûte peinte du dôme de San Gennaro où sont conservées les reliques du saint. De nombreux concerts avaient lieu d'ailleurs dans cette église. Et aussi les sublimes sculptures de la chapelle San Severo dont le Christ voilé et l'homme pris au piège dans le filet du péché. Catherine Pégard, présidente du château de Versailles, pose sur la scène de l'opéra de Caserte qui inspira celui de Versailles. Chapelle royale et grand canal de la résidence de Caserte qui rappellent les perspectives versaillaises. Au milieu du grand escalier, Béatrice de Bourbon-Sicile pose elle aussi. Elle est la descendante directe de Charles de Bourbon et de Louis XIV. Marie-France Guimard-Roche vous retrouvera à Versailles pour d'autres émissions de Bienvenue chez le Roi. Celle-ci était enregistrée et réalisée dans les studios de Radio Grand Ciel par Émilie Glory, pour vous. Et nous allons écouter Philippe Jaroussky avec la Dolce Fiamma de Jean-Sébastien Bach.
Thank you.